Bonjour à tous et bienvenue dans ce Vivante Église. En cette année du jubilé de l'espérance, nous avançons ensemble, portés par le Christ, notre espérance, notre sauveur et notre salut. Dans un monde secoué par des tensions croissantes, une actualité marquée par les conflits et la menace de nouvelles guerres, un climat qui se détériore et une société traversée par les peurs, les divisions, l'épuisement, nous pourrions être tentés de céder au découragement. Mais l'espérance chrétienne n'est pas une simple consolation, elle est un acte de foi, un choix profondément enraciné dans la promesse du Christ, vivant au cœur de notre humanité blessée. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette espérance qui relève, qui rassemble, qui ouvre un avenir. Pour en parler au micro dans ce Vivante Église, je reçois Monseigneur Bruno Valentin, évêque de Carcassonne et Narbonne, homme de parole et d'écoute, pour nous aider à entendre ce que l'Évangile peut encore nous dire dans ce monde en crise et dans ce monde blessé. Bonjour Monseigneur Bruno Valentin.
Bonjour Nathalie.
Ravi de vous accueillir dans cette émission. Donc vous êtes évêque du diocèse de Carcassonne et Narbonne. Alors, qu'est-ce que l'espérance chrétienne change vraiment dans notre manière de vivre aujourd'hui, Monseigneur ?
C'est d'abord une dynamique de vie, l'espérance. Une dynamique qui est, au fond, la dynamique inverse de l'espoir. L'espoir consiste à se projeter vers demain, à la force du rêve, à partir de ce qui me manque aujourd'hui. Voilà, je suis au chômage, j'ai l'espoir d'avoir du travail demain. Je suis malade, j'ai l'espoir d'avoir une meilleure santé demain. Ça, c'est l'espoir. Me projeter vers demain à partir de ce qui me manque aujourd'hui. L'espérance, c'est la dynamique tout à fait inverse. L'espérance, ça consiste à vivre aujourd'hui à la lumière de ce que je sais de demain avec certitude. Alors, la formule peut sembler un peu étonnante parce que, a priori, on n'a pas beaucoup de certitude sur demain. Sauf que quand on est chrétien, on a la certitude de la victoire finale du Christ. On a la certitude que le Christ est ressuscité. Et cette certitude nous éclaire dès aujourd'hui. Elle ne nous fait pas simplement attendre des lendemains qui chantent, mais elle me donne la force de vivre aujourd'hui ce que j'ai à vivre et surtout la capacité de repérer, de distinguer dans ma vie d'aujourd'hui les signes avant-coureurs de cette victoire finale de la vie. Donc l'espérance, c'est vraiment, je dirais, un art de vivre très concret, très, très, très immédiat, à la lumière de ma certitude de la victoire de Jésus sur la mort.
Alors vous-même, en tant que pasteur, où percevez-vous ces germes d'espérance dans le quotidien de votre vie et de votre vie d'évêque, en charge des âmes, sur ce diocèse de Carcassonne et Narbonne quels sont un peu ces germes que vous pouvez déjà apercevoir ?
Pour m'en tenir simplement à l'espace d'observation que constitue un pèlerinage diocésain à Lourdes, comme celui que j'achève de vivre. Là, en l'espace de 5 jours, en pèlerinage avec 350 au doigt, je n'ai cessé de voir ces germes dans le groupe, à travers la générosité des enfants, si heureux de se mettre au service des malades, à travers tous ces adultes qui sont venus pour des raisons parfois très, très accidentelles, et qui me demande comment recevoir la confirmation, comment recevoir la première communion, à travers la générosité sans limite de cette maman du monde des gitans qui est venue ici avec son fils très gravement autiste et qui l'accompagne avec une telle tendresse dans toutes les processions, tous les temps forts spirituels du sanctuaire, à observer la portion de diocèse avec laquelle je suis. Je vois partout des signes d'espérance.
L'espérance se transmet aussi à travers les vocations et parmi elles, les vocations sacerdotales qui restent une source à la fois de lumière et de questionnement. Alors comment, Monseigneur Bruno Valentin, contempler aujourd'hui cette grandeur de la vocation sacerdotale ?
La vocation sacerdotale est intemporelle. C'est Jésus qui a créé les prêtres. Et donc, tant qu'il y aura l'Église, il y aura des prêtres. Notre responsabilité est de bien comprendre le comment de l'exercice de ce ministère qui a beaucoup, beaucoup changé à travers les siècles. Et donc, on n'est plus prêtre aujourd'hui comme on l'était à l'époque de Jésus, ça n'a pas de sens. Ni même comme on l'était il y a 50 ans. Et ni même donc comme on le sera dans 50 ans. Et aujourd'hui, on voit bien que dans un diocèse comme le mien, on est dans une période de rupture parce que des jeunes, régulièrement, encore hier, des jeunes audois me disent leur désir de consécration, leur appel à une éventuelle vie sacerdotale. Mais en même temps, ils me disent à quel point notre organisation actuelle de l'incardination, l'idée de passer toute sa vie au service d'un seul département comme l'Aude, leur semble difficile à envisager en fonction des modes de vie qui sont ceux d'aujourd'hui. Donc moi, je suis assez convaincu qu'il faut qu'on fasse évoluer la manière dont fonctionne la répartition, l'organisation et le rattachement des prêtres diocésains sur nos territoires, sous peine de n'avoir bientôt que des prêtres dans les grandes villes, fondamentalement, et de n'avoir plus de vocation pour les territoires ruraux.
Et c'est ce qu'on peut constater aussi dans les grandes villes, hein, où effectivement il y a une masse importante aussi de jeunes prêtres dans ces grandes villes.
La masse n'est pas forcément importante, mais disons que c'est un lieu de regroupement naturel.
Oui.
Dans l'Aude, vous ne pouvez quasiment pas faire de formation après le bac. Et donc, passé la terminale, les Audois sont à Toulouse ou à Montpellier. Oui. Et donc, quand la question de la vocation naît aujourd'hui assez fréquemment dans les temps d'études supérieures, ils sont à Toulouse et à Montpellier.
Alors, quelles sont selon vous les exigences les plus profondes, à partir aussi de tout ce que vous venez aussi d'énumérer, ce changement et cette évolution selon aussi les temps et les époques et peut-être aussi les crises, quelles sont les exigences les plus profondes de ce ministère sacerdotal? Un prêtre reste ordonné, il reste prêtre pour l'éternité, il a pour vocation quand même le souci des âmes pour conduire ses âmes vers cette éternité, et il y a cette grande question aussi du salut. Il est fait aussi pour se donner, il y a cette exigence aussi dans cette vocation où vous-même vous avez répondu un jour et où vous-même aujourd'hui vous répondez aussi oui dans votre vocation aussi et ce ministère d'évêque. Alors, quelles sont ces exigences les plus profondes et quelles sont au fond dans ces exigences, Monseigneur Bruno Valentin, les luttes et les combats pour ce monde d'aujourd'hui, un monde qui va vite et un monde, vous l'avez souligné, qui évolue, où il faut peut-être effectivement repenser la question et la manière de vivre cette vocation et d'y répondre.
Alors, vous avez déjà abondamment répondu vous-même à votre question, hein, de manière tout à fait complète. J'ajouterais peut-être un point en particulier, c'est l'exigence de la fidélité, qui n'est pas propre aux prêtres. On le voit bien aussi dans la question de la vie conjugale aujourd'hui. Mais c'est vrai que l'engagement pour toujours, l'idée de faire un choix de vie qui m'engage pour le restant de mes jours, est aujourd'hui une grande exigence. Dans un monde, une société, une culture qui est de plus en plus fluide. Aujourd'hui, professionnellement, on change tout le temps. Affectivement, on change tout le temps. Et donc, l'idée de construire sa vie sur un engagement à vie, définitif, aujourd'hui est un défi qui apparaît redoutable à beaucoup de jeunes.
Alors, comment l'Église peut-elle accompagner dans la durée, puisque vous abordez cette question qui est la fidélité, comment l'Église peut-elle accompagner ses futures vocations et penser cette fidélité du sacerdoce dans le célibat, Monseigneur Valentin?
Alors, la question de l'engagement pour toujours et la question du célibat sont deux questions distinctes. Pour rester d'abord sur la question de l'engagement définitif, je crois qu'il s'agit d'abord et avant tout, pour ceux qui vivent déjà cet engagement, sous une forme ou sous une autre, de témoigner de la richesse qu'ils y trouvent. Parce que si spontanément l'idée semble difficilement accessible à beaucoup de jeunes, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas suffisamment sur leur route de gens qui leur témoignent de l'accomplissement de soi, du surcroît de joie qu'ils trouvent eux-mêmes dans ce choix de vie. Pour prendre un exemple sur le terrain plus conjugal, par exemple, j'ai toujours été très étonné, dans toute ma vie sacerdotale, des réticences et des préventions des couples dans mes paroisses pour fêter en communauté et devant tout le monde leurs anniversaires de mariage, 30 ans, 40 ans, 50 ans, avec une fausse pudeur qui est un outrage à Dieu. « Oh non, mais on ne veut pas se mettre en avant. Oh non, mais vous savez, on n'est pas exemplaire. » Mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Fêter 50 ans de mariage dans sa paroisse, ça n'est pas se mettre en avant. C'est rendre grâce à Dieu pour les dons reçus. Donc c'est une question de justice, due à Dieu. Et c'est témoigner devant toute l'assemblée, jeunes y compris, que c'est possible. Donc il faut que ceux qui ont fait ce choix de vie et qui parviennent à le tenir témoignent, encore une fois, par-delà les exigences et les épreuves qu'ils ont nécessairement rencontrées, de l'accomplissement et de la joie qu'ils ont aussi trouvée.
Alors, j'imagine que parmi les auditeurs de notre radio aujourd'hui, certains sont mariés, certains sont fidèles, certains ont peut-être célébré leurs 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, peut-être des prêtres qui écoutent aussi et qui ont aussi de nombreuses familles ou de nombreux couples. Vous lancez là une invitation à ces couples qui sont restés, parce que dans cette fidélité, vous l'avez souligné, il y a des luttes. Hein, donc, vous les invitez, là, maintenant, à oser témoigner à temps et à contre-temps. Au fond, on manque de témoins ou on manque de témoins audacieux ?
On manque certainement sur ce point de témoins. Voilà, les jeunes ont beaucoup plus sous les yeux des exemples d'échecs, des exemples de séparation, des exemples de projets qui n'auront pas été menés à terme. Il faut, parce qu'ils les ont aussi dans leur entourage, qu'ils puissent avoir le témoignage de vie menée jusqu'au bout d'un engagement pris.
Donc vous encouragez les couples qui vous écoutent aujourd'hui dans ce Vivante Église à oser témoigner de cette fidélité.
Simplement dans le cercle de leur famille, dans le cercle de leur paroisse, dans le cercle de leurs relations ordinaires.
Cette fidélité du couple est importante aussi pour les prêtres eux-mêmes.
Bien sûr, dans l'Église, les états de vie se complètent et se nourrissent mutuellement. Le célibat sacerdotal que l'Église latine maintient ne trouve son sens qu'en référence au mariage et réciproquement.
Alors on est dans ce jubilé de l'espérance, Monseigneur Bruno Valentin. Quelles sont un peu les dynamiques qui ont été données pour votre diocèse de Carcassonne ?
Nous sommes entrés dans cette année jubilaire tout à fait ordinairement au rythme de l'Église universelle tout entière, avec donc d'abord le désir de participer aux événements communs, comme par exemple le jubilé des jeunes à Lourdes à la fin du mois de juillet, début du mois d'août, auquel le diocèse sera représenté. Donc nous marchons au rythme de l'Église universelle. Et puis nous avons également un certain nombre de propositions qui nous sont propres. Notamment, on a élaboré un petit parcours de redécouverte du visage du Christ. Parcours clé en main, fait de 6 séances à vivre en regroupant 6-8 personnes de son entourage. Et c'est un parcours qui marche extrêmement bien. Les gens sont heureux d'avoir ce petit support très simple, très pédagogique, permettant en 6 fois 1h30 de se remettre devant le cœur de notre foi chrétienne, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Donc on a bâti ce petit support pédagogique avec des moyens très simples pour permettre au plus grand nombre, à l'occasion de ce jubilé qui tombe avec le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, de redécouvrir la figure du Christ.
Pourquoi garder foi en l'Église, hein, puisqu'on parle de cette Église, et comment garder foi en l'Église aujourd'hui, Monseigneur Bruno Valentin, et puis dans un monde qui va vite, qui évolue très vite, voilà, comment on peut garder tout ça ?
Pourquoi garder foi en l'Église ? Parce que c'est elle qui nous donne le Christ. Chacun de nous peut se retourner un instant sur son propre chemin de vie, de foi, et se dire « Mais pourquoi je suis chrétien aujourd'hui ? Qui m'a fait faire ma première communion ? Qui m'a baptisé ? Qui m'a ouvert la Bible ? Qui m'a seulement dit qu'elle existait ? » Et derrière toutes ces questions, la réponse, c'est l'Église. C'est mon curé, c'est mon parrain, ma marraine, c'est ma paroisse, c'est l'Église. Voilà. Donc, chacun de nous peut vérifier expérientiellement que personne n'a rencontré Jésus comme un astéroïde qui m'est tombé dessus sans médiation. L'Église, c'est celle qui nous donne Jésus et c'est pour ça qu'elle est irremplaçable.
Restez fidèle donc à cette Église. Vous avez parlé de paroisse. Important de rester lié à sa paroisse ou avoir cette liberté, cette souplesse aussi de pouvoir naviguer d'une communauté, d'une paroisse à une autre. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, si on peut vous demander un petit conseil pour ceux qui vous écoutent très naturellement dans ce Vivante Église voilà, et qui sont parfois avec un questionnement ou ont des sensibilités différentes. Voilà, et ça existe. Hein. Faire unité dans l'Église, dans sa diversité. Monseigneur.
La notion de paroisse est en grande évolution et elle est appelée à évoluer beaucoup dans les années qui viennent. On sort d'une période multiséculaire où, de manière très rigide, si je puis dire, la carte ecclésiastique et la carte civile se superposaient exactement. Voilà, un village, une paroisse, un quartier, une paroisse. Bon, aujourd'hui, c'est fini. Dans mon diocèse, l'Aude, il y a 433 communes et il y a 14 paroisses. Donc, il faut prendre acte de ce divorce entre carte civile et carte ecclésiastique et comprendre qu'aujourd'hui, la notion de paroisse donc, se vit très différemment et ne peut plus être comprise dans un sens strictement territorial comme elle l'a été pendant longtemps. On peut légitimement, en fonction de son histoire, de ses engagements, de sa sensibilité, se rattacher à une communauté qui est à distance de là où je vis. L'enjeu important, c'est d'y être stable, d'y être fidèle. Il faut participer à la vie d'une communauté, en faire la sienne et y apporter son concours. Le papillonnage ne donne rien, n'engendre rien. Passer indéfiniment d'un monastère à une paroisse, d'une paroisse à un sanctuaire, pour aller picorer des messes, ne construit rien, ni pour moi, ni pour l'Église. L'important, c'est de trouver son lieu, de s'y engager et d'y être fidèle.
Alors, puisque vous parlez de ces 14 paroisses dans votre diocèse, Monseigneur Valentin, vous avez combien de communautés dans ce diocèse ?
Communauté religieuse ?
Religieuse, oui.
Proportionnellement à un diocèse donc, qui aujourd'hui est assez modeste dans sa carte diocésaine, on a la grâce d'avoir encore beaucoup de communautés, une quinzaine au moins, là j'ai pas fait le décompte exact, de nature très diverse, voilà, depuis des communautés contemplatives, très, très, très classiques, comme par exemple les bénédictins qui sont dans le Donzan, tout au sud du diocèse, déjà dans le territoire de l'Ariège, jusqu'à des communautés apostoliques très engagées dans la vie des paroisses. Je pense aux sœurs salésiennes qui sont à Narbonne. Je pense toujours à Narbonne, aux frères conventuels. Enfin, on a une diversité de vies religieuses qui est encore assez riche dans l'Aude.
Et communautés aussi contemplatives. Ces communautés sont importantes pour l'Église, pour le monde.
Oui, nous avons les sœurs de Rionnette, non loin de Carcassonne, les bénédictins dont je parlais tout à l'heure. Nous avons quelques communautés proprement contemplatives dont la place est essentielle pour la vie de l'Église. Leur prière féconde toute l'action pastorale et l'engagement missionnaire de l'Église.
Est-ce qu'il y a encore des vocations dans ces communautés contemplatives ?
Oui. La communauté de Rionnette est une petite communauté, comme elle l'a toujours été, parce que l'abbaye n'est pas bien grande, mais elles ont actuellement des postulantes, des regardantes. Oui, c'est une petite communauté vaillante et dynamique, et pareil pour le Donzan.
Donc la vie contemplative, on y répond encore aujourd'hui.
Oui. Et d'ailleurs, dans les toutes dernières entrées en vie consacrée, de l'Aude, c'est un jeune garçon du Lauragais qui, en octobre dernier, est entré chez les bénédictins, non pas dans l'Aude, mais donc oui, il y a encore des réponses à la vie contemplative, bien sûr.
Monseigneur Bruno Valentin, je vais vous proposer une plage musicale et je vous invite donc à vous retrouver pour ce Vivante Église dans quelques minutes. À tout de suite et merci. Suite de ce Vivante Église, et puis en cette année jubilaire, l'espérance devient un souffle pour l'Église, un appel à se remettre en marche malgré les épreuves. Dans votre livre, Monseigneur Bruno Valentin, puisque vous êtes l'invité de ce Vivante Église, Rebâtir ou laisser tomber, je rappelle que vous êtes évêque de Carcassonne et Narbonne, vous affrontez sans détour les blessures de l'Église et la gravité des scandales récents, mais loin de céder au repli ou au découragement, vous invitez à demeurer dans la barque aux côtés du Christ. Avec clarté et espérance, vous appelez à une fidélité lucide, vivante et active, car malgré les fragilités, l'Église demeure ce lieu unique où Dieu ne cesse de rejoindre et de nous envoyer. Comment vivre une espérance concrète, ancrée dans ce réel, qui nous engage, Monseigneur Bruno Valentin, pleinement dans ce monde tel qu'il est, avec ses profondes blessures, ses nombreux défis? Est-ce que tout cela est possible dans une Église qui est aujourd'hui debout, fragilisée par les épreuves et les nombreux scandales, Monseigneur?
Oui, je le crois, sinon je ne serais pas devant vous.
Et vous ne seriez pas au micro ?
Absolument. Je crois que Il est très important que chacun d'entre nous identifie les marges de manœuvre qui sont les siennes, ce qu'il a entre les mains pour améliorer le monde et pour améliorer l'Église. On a tous une part de responsabilité dans ce chantier sans fin d'amélioration, de purification, de rectification de ce qui doit l'être. Et donc, demandons-nous chacun à nos places d'évêques, de prêtres, de fidèles, et moi, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses ? Dans sa lettre au peuple de Dieu, que le pape François nous a écrite au cœur de l'explosion des scandales de violences sexuelles dans l'Église, il nous dit ça notamment. Il nous dit c'est la responsabilité de tous que de changer les choses, et donc engageons-nous dans ce chantier avec audace.
Comment faire la part entre une juste colère face aux abus et puis un rejet parfois global de l'institution, Monseigneur ?
On peut se référer à l'évangile de la purification du temple par Jésus, hein, les marchands chassés du temple, qui me semble répondre à votre question. Voilà, la colère comme un moteur nécessaire, comme un moteur positif, dès lors que cette colère me permet non pas simplement de détruire, de balayer ce qui me met en colère, mais de construire et de faire advenir une réalité plus juste. Jésus, lorsqu'il chasse les marchands du temple, ne fait pas seulement un esclandre, ni principalement. Il signifie qu'un nouveau temple et surtout une nouvelle économie du temple va advenir, qui ne reposera plus sur le sacrifice de bœufs, de moutons, mais sur son offrande à lui. Donc, la colère de Jésus, il ne faut pas en faire simplement une lecture moralisante en disant « il est choqué parce qu'on fait du commerce dans le temple ». Il faut y voir un moteur de transformation radicale de la relation avec Dieu. Il nous enseigne comment nous aussi employer nos justes colères.
Peut-on critiquer l'Église sans s'en éloigner, Monseigneur Bruno Valentin ?
Oui, bien sûr. Vous connaissez l'adage « qui aime bien, châtie bien ». Voilà. Non, aucun doute. Il faut avoir une vision
et
juste.
Et l'Église est sévèrement critiquée actuellement.
Mais oui, mais c'est très bien. C'est très bien. Une part des violences et des abus que nous avons à déplorer aujourd'hui vient d'une sacralisation indue de l'Église, de ses représentants, de ses institutions. On n'osait pas toucher à la figure du prêtre. On n'osait pas toucher à la figure de telle grande école qui était prestigieuse dans la région. Ça vient de là, le problème. Il faut avoir une vision juste de l'Église. Et notamment, comme dit le Concile Vatican II au paragraphe 8 de Lumen Gentium, être capable de faire une analogie entre la personne de Jésus et la personne de l'Église. Oui. Sur deux points. Dans Jésus comme dans l'Église, il y a du divin et de l'humain qui sont intimement unis. Et en Jésus comme dans l'Église, l'humain est au service du divin. L'humain est l'instrument du divin. Alors, analogie veut dire qu'il y a des ressemblances, mais il y a aussi des dissemblances encore plus grandes. Donc il ne s'agit pas de faire de l'Église une personne divine comme Jésus. Mais comprendre que ce mystère d'union de l'homme et de Dieu dans l'Église, et surtout un mystère instrumental dans lequel l'humain est au service du divin, nous oblige à considérer les dimensions humaines de l'Église, les hommes, les femmes qui la composent, les structures, avec reconnaissance, puisqu'ils sont des instruments de Dieu, mais avec un vrai esprit critique pour purifier, corriger ce qui doit l'être.
Alors, on y reviendra, puisque vous avez aussi écrit ce livre, « Rebâtir ou laisser tomber ». Alors, comment garder la foi, puisqu'on parle aussi de sacerdoce, quand des figures d'autorité ecclésiale, et c'est ce que nous traversons aujourd'hui, trahissent leur mission ? Là, je pense à tous ceux qui vous écoutent dans ce Vivante Église aujourd'hui, laïcs, engagés ou désengagés aujourd'hui, et éprouvés voilà, par ces figures ecclésiales qui ont quelque peu chuté, qui sont tombées sévèrement parfois.
Oui, c'est une épreuve. Oui, c'est un scandale que de se rendre compte que tel prêtre en qui j'avais mis tant de confiance se révèle finalement un être méprisable dans les comportements qu'il a pu avoir. C'est une épreuve, oui. Cette blessure, il ne faut pas la fuir. Il ne faut surtout pas la relativiser. Et en même temps, il faut savoir reconnaître le bien que Dieu m'a fait. Dieu m'a fait à travers cette personne, malgré sa médiocrité. Parce que ça, ça demeure. Voilà. Je découvre que cet homme, au fond, était bien peu recommandable, mais le bien que j'ai reçu par son ministère, par les occasions que moi j'ai eues à le fréquenter, demeure, et demeure comme un don de Dieu, et reste pour moi motif de gratitude.
Alors, que signifie pour un simple fidèle ou un simple auditeur qui écoute aujourd'hui ce Vivante Église, rebâtir l'Église aujourd'hui? Restons aussi dans ce temps du jubilé de l'espérance et restons debout, fermes, dans la foi, Monseigneur Bruno Valentin.
Alors, je crois qu'on l'a déjà dit plusieurs fois depuis le début de notre entretien, donc je ne vais pas tout répéter. Identifier les lieux possibles d'engagement et s'y tenir.
Et comment agir sans se décourager, parce qu'il y a aujourd'hui parmi de nombreux laïcs, des laïcs bien engagés depuis parfois des années, Monseigneur Valentin, dans l'Église, parfois en responsabilité, qui ont eu des lettres de mission, qui ont servi dans des communautés ou dans leur paroisse et qui sont quelque peu véritablement essoufflés, découragés. Découragés, que dire, que leur dire? Que ça soit aussi des auditeurs de votre diocèse et puis tous les auditeurs qui sont en quête, qui cherchent et qui souhaitent aussi faire un bout de chemin, parfois aussi avec l'Église.
Alors moi, je distinguerais l'essoufflement du découragement dans ce que l'essoufflement dit d'abord un état spirituel, un état d'âme, et le découragement plutôt un état psychologique. Il faut distinguer les choses parce qu'ils n'ont pas la même racine, donc ni le même traitement. Si vous êtes essoufflé, c'est votre vie spirituelle qu'il faut interroger. Vos lieux de ressourcement, la place que vous faites à la prière, les occasions que vous avez de faire des retraites, votre rapport à la vie sacramentelle. C'est tout ça qui est interrogé par un sentiment d'essoufflement. Si vous êtes découragé, vous êtes confronté à la lourdeur de l'institution, aux difficultés relationnelles au sein d'une communauté, au manque d'atomes crochus avec le prêtre de votre paroisse ou avec votre évêque. Vous êtes sur un autre registre qui nécessite donc d'autres moyens de traitement. Le dialogue, on se comprend toujours mieux en se parlant. Et ça demande beaucoup de moyens, le dialogue. Il ne faut pas croire que ça se fait tout seul. C'est ce qu'il faut à tout prix garder du pontificat du pape François. Cet appel si insistant à entrer dans un savoir-faire synodal, c'est un appel à savoir dialoguer, se parler en Église. Et donc à développer les bons outils pour cela. Je ne suis pas certain qu'on soit si doué que cela en Église pour se parler. Il y a les freins du respect humain qui fait qu'on va plutôt dire du mal des autres dans leur dos que devant eux, il faut le reconnaître. Mais il y a aussi une question de méthode dans tous nos dialogues collectifs, réunions d'équipe pastorale, de conseil pastoral. Est-ce qu'on utilise les bons moyens pour avoir un dialogue qui dépasse la simple discussion de bistrot? Est-ce qu'on sait mettre en œuvre des outils comme, par exemple, le dialogue contemplatif, qui a été la méthodologie mise en œuvre au synode à Rome? Renouveler nos outils de dialogue, c'est sans doute un des moyens urgents pour sortir du découragement.
C'est ce que vous mettez en œuvre dans votre propre diocèse, Monseigneur Valentin?
J'essaye. Nous, on s'essaye à ouvrir des espaces de dialogue et notamment à l'automne qui vient, entre septembre et Noël, je vais demander à toutes les paroisses de mon diocèse de convoquer des assemblées paroissiales pour tenir un temps de dialogue sur une journée ou une demi-journée, comme les curés le choisiront, avec une méthodologie, un instrument de travail précis qui leur sera donné, le même pour toutes les paroisses, et sur une question toute simple mais redoutable. Quels seront les principaux lieux de la mission dans l'Aude dans 10 ans? Voilà. Je veux que les paroisses se parlent sur ce sujet pour pouvoir discerner progressivement là où il faudra s'investir dans l'avenir.
Vous venez de dire, donc vous avez 14 paroisses sur votre diocèse. Quelque chose qui est important pour que les paroisses se parlent. Aujourd'hui, les paroisses entre elles ne communiquent peut-être pas assez, c'est ce qu'on peut entendre.
Surtout,
ou ne savent pas communiquer, ou n'ont pas pris les outils.
En leur propre sein. pas d'abord entre elles, mais même en elles-mêmes. En elles-mêmes, chacun...
Quelles sont les difficultés chacun, de ce manque de communication, de dialogue,
routine, hein,
la routine
La routine, le sentiment de savoir d'avance ce que les autres pensent, puisqu'on les fréquente depuis des années. La grande difficulté à accueillir les nouveaux venus. Nouveaux venus géographiques, hein, avec ceux qui viennent d'emménager dans la région. Nouveaux venus ecclésiaux, avec tous les nouveaux baptisés que nous accueillons année après année. On a du mal à intégrer vraiment les nouveaux venus.
Et vous avez une réponse ou vous l'expliquez comment, cette difficulté à accueillir les nouveaux qui s'installent?
Le poids du « on a toujours fait comme ça », le confort des positions acquises, même lorsqu'elles peuvent paraître dérisoires, mais avoir la clé de l'église, être celle qui décide du fleurissement, c'est des petits espaces de pouvoir, l'air de rien. Et donc, on ne les lâche pas facilement. Il y a des raisons très compréhensibles à cette situation. Mais moi, je constate que lorsque je visite mes paroisses, j'ai deux discours qui me sont tenus. Ceux qui sont en place, qui se plaignent de la difficulté à trouver du renfort, et ceux qui arrivent, qui se plaignent de la difficulté à être intégrés. Les deux discours me sont tenus dans les mêmes paroisses.
Quelles sont vos réponses?
Mettre les deux discours face à face et les inviter à se parler.
Alors, on parle de communication, on parle de communiquer. Est-ce qu'on écoute assez aussi? Parce que pour communiquer, il est bon aussi de rencontrer l'autre et dans un premier temps, peut-être, de l'écouter. Est-ce qu'on sait écouter? Est-ce qu'on sait se rencontrer dans un premier mouvement aussi d'écoute?
C'est l'enjeu fondamental d'interroger les outils de discussion que nous mettons en œuvre dans un conseil pastoral, dans une réunion paroissiale. Ça peut sembler une question curieuse a priori, parce que à partir du moment où on a appris à parler sur les genoux de notre maman, on pense qu'on sait parler. Mais ça ne fait pas pour autant un dialogue constructif, précisément parce que si tout le monde parle en même temps, tout le monde parle pour s'écouter soi-même, tout le monde parle à sens unique, s'il n'y a pas d'espace à l'écoute, la discussion ne mène nulle part. Et donc, en commençant par se rappeler que si Dieu nous a créés avec une bouche et deux oreilles, c'est sans doute parce que pour qu'un dialogue porte du fruit, il faut écouter deux fois plus qu'on ne parle. Ensuite, se donner des outils qui organisent la discussion de manière à faire place à l'écoute.
L'écoute est un lieu de conversion intérieure, Monseigneur.
Bien sûr,
puisque
l'écoute, c'est l'espace que je laisse à l'autre. C'est la part de disponibilité que je lui offre pour me laisser toucher par sa parole, par ses arguments, par ce qu'il a envie de me dire. Donc, effectivement, c'est un lieu de conversion.
Donc, la question, c'est est-ce que je suis prêt à voir et vivre profondément ce lieu de conversion?
Bien sûr que parmi les raisons qui nous donnent tant de difficultés à écouter, il y a la peur de se laisser toucher. Il n'y a qu'à voir, par exemple, le réflexe naturel que nous avons face aux gens qui souffrent, grands malades, mourants. Quand on va les visiter, on cherche à tout prix des choses à dire. Alors qu'eux, ce qu'ils demandent, c'est qu'on les écoute. Mais pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à se tenir devant un grand malade sans avoir rien à lui dire? Parce qu'on a peur d'être soi-même touché par sa souffrance. Et donc on comble, on remplit, on se protège soi-même en accablant de paroles les malades qu'on visite. Et ils le disent, les malades, si on veut bien leur donner la parole. Ça les fatigue d'être visités par des gens qui parlent tout le temps. Ce qu'ils attendraient, c'est d'être visités par des gens qui les écoutent.
Alors comment réconcilier, au fond, on parle de diversité de personnes, voilà, de sensibilité aussi, de comportement. Y aurait-il aussi, vous parlez de formation, mais tous les laïcs doivent-ils passer par impérativement des formations à l'écoute, hein, des formations à la communication non violente? Je prends des exemples, Monseigneur.
Non. Il suffit qu'il y ait dans les communautés... tel ou tel animateur qui se soit approprié lui-même ces outils-là pour les mettre en œuvre et en être le chef d'orchestre. Il n'est pas nécessaire que chaque fidèle se forme de manière professionnelle à l'écoute. Il est nécessaire que collectivement, nos communautés sachent vivre l'écoute.
Avec justesse, vous rappelez aussi la position aussi de la personne qui a été victime et abusé. Il est souvent question aussi de profonde colère et puis de pardon. Comment arriver aujourd'hui, quand on est un laïc, en mission ou pas aujourd'hui, ou ayant peut-être quitté l'Église et tourné le dos, comment arriver à continuer et arriver à un profond pardon, Monseigneur Bruno Valentin.
La question du pardon, elle est tout à fait nécessaire parce que c'est le pardon qui guérit, c'est le pardon qui libère. Lorsque j'étais en région parisienne, j'étais prêtre dans les Yvelines avant d'être évêque de Carcassonne et Narbonne. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois une grande figure du pardon qui s'appelait Maïti Girtaner, une femme qui a été terriblement torturée pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a eu l'occasion de retomber sur son bourreau des années après, dans les années 80. Et elle l'a pardonné. Et elle disait, Maïti, quand elle témoignait dans les lycées ou tout ça, elle disait « j'ai pardonné pour me libérer moi-même ». Pour me libérer moi-même des liens de rancune, de haine. J'ai pardonné pour me libérer moi-même. Donc oui, le pardon est tout à fait nécessaire à la libération et à la paix. Mais il faut bien mesurer que la question du pardon vient après celle de la justice. La justice est un préalable. La justice, c'est simplement donner à l'autre ce que je lui dois. Le pardon, c'est ce que je décide de lui donner en plus. Donc pour que la question du pardon puisse s'ouvrir, il faut d'abord que la justice soit passée. Il n'y a pas de question du pardon tant que les coupables ne sont pas sanctionnés.
C'est une dernière parole qui est claire, c'est dit, c'est limpide. Monseigneur Bruno Valentin, évêque pour le diocèse de Carcassonne et Narbonne, je vous souhaite de poursuivre une belle mission.
Merci.
Voilà, une belle mission aujourd'hui et pour demain, après-demain et l'avenir. Merci, Monseigneur Valentin.
Au revoir. Merci, Nathalie.